Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Eh bien, chers frères, l'évangile que nous venons d'entendre est un appel assez fort, pour ne pas dire même violent, à un combat spirituel d'importance. C'est pour entrer dans ce combat et en avoir la certitude, ainsi que le Saint-Père vient de nous y convier fortement, je vais y revenir, que d'abord je vous invite à regarder le but de ce combat, qui est la vie éternelle, notre destinée éternelle dans un premier temps, qui passe par un jugement, et dans un deuxième temps, quel est ce combat pour nous? Tout d'abord, le jugement et la destinée éternelle. J'ai peur souvent qu'on oublie que nous sommes faits pour vivre éternellement. Et ce n'est pas une question de mépris pour cette vie qui, du coup, n'aurait plus d'importance, etc. C'est tout l'inverse. Notre vie ici-bas a une grande importance, c'est la préparation de notre vie éternelle. Et c'est pourquoi, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un jugement et que nous vivrons de ce qui va rester, en quelque sorte, c'est-à-dire le bien. Dieu qui est essentiellement ce bien, eh bien, c'est ce dont nous vivrons. Voyez, c'est dire si notre vie ici-bas a de l'importance, elle n'est pas secondaire. La vie éternelle, ce n'est pas une deuxième chance où on ferait autre chose. Eh bien, c'est autrement que nous vivrons ce dont nous allons pouvoir vivre dans notre vie, jour après jour, le bien que nous établissons. Alors, je suis obligé de le rappeler parce que ces paroles aujourd'hui heurtent, parce qu'on a oublié un peu le catéchisme. Il y a trois destinées possibles. Il y en a une temporaire et deux définitives. Il y a l'enfer. Il y a l'enfer. Le Seigneur parle de la géhenne de feu ici. C'est pas marrant de parler de ça. C'est pas pour vous faire peur. Parce que, vous savez, si j'étais guide de haute montagne et que je vous emmène en montagne, eh bien, je ferais attention de vous dire « Attention, ne passe pas là, il y a un trou. Sous la plaque de neige, il y a un précipice et si tu passes là, tu vas mourir. » Eh bien, voilà ce que le Christ fait, ce que l'Église fait sans cesse. Elle nous rappelle qu'il y a des endroits très dangereux. Il ne faut pas passer, on risque de mourir éternellement. Alors, évidemment, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous protéger, pour vous appeler et appeler votre attention à ce qui peut vraiment vous faire vivre. Voilà ce qu'est cette détermination du Christ à parler de la gêne, de feu, de l'enfer. Toutes les images que vous pouvez employer sont bonnes, et même si on ne peut pas réduire Dieu à une image, parce que c'est insaisissable, c'est le sujet qui revient le plus souvent dans la Bible, et dans la bouche du Christ. Si vous lisez l'Évangile, rien que dans l'Évangile, je ne parle pas de l'Ancien Testament, des lettres de Paul, etc. Si vous ne lisez que l'Évangile, le Seigneur en parle 26 fois, de manière très claire. Alors, il ne faut pas vous faire à croire que c'est une histoire pour les enfants, c'est une question centrale qu'aborde notre Seigneur. Nous le savons, notre âme n'est pas simplement une espèce de feuille balayée par le vent qui sera emmenée au gré de la volonté divine. Non, j'ai été créé comme un être libre dans une relation d'amour et cette relation suppose qu'il n'y a pas de violence faite à ma liberté. Cela suppose donc que c'est moi qui désire et qui vais vouloir vivre avec Dieu. Bien sûr, le Père des cieux, comme tout Père, a prévu le bien. Il a prévu que tout le monde puisse sauver son âme. Il a disposé ses grâces pour que nous puissions vivre avec lui. Mais cela reste une décision personnelle. C'est une excellente nouvelle. Je ne suis pas un pantin que le Seigneur aura fait vivre un peu sur terre et qu'après, par un coup de balai, il casera dans son paradis. Non. C'est un chemin qui m'est proposé et l'existence même de l'enfer en est l'assurance, la certification, la preuve par neuf. Je suis l'acteur, par mes mérites, de cette vie vers laquelle je vais. Bien sûr, je veux choisir Dieu et je nous le souhaite à tous. Notre destinée, c'est le paradis, c'est-à-dire la béatitude, la plénitude de mon être, ce pourquoi je suis fait. Voilà pourquoi ça nous apportera du bonheur. Et voilà pourquoi nous pouvons désirer, il nous faut transmettre aux enfants, à ceux qui nous entourent, ce désir du ciel. Non pas que nous voulions abréger cette vie ici-bas, au contraire, Nous voulons l'user pleinement pour pleinement pouvoir vivre éternellement. Alors, entre les deux, si vous êtes allé au catéchisme, il vous souvient qu'il y a encore une solution qui s'appelle le purgatoire. Alors il faut le rappeler parce que vous allez entendre des esprits chagrins qui vont vous dire « Le purgatoire, c'est une invention de l'Église au XIVe siècle, bien entendu. » Eh bien, c'est toujours les gens qui lisent trop peu, qui ont trop peu de science. Hein. Oui, au XIVe siècle, l'Église a pris le soin de déclarer l'existence du purgatoire comme un dogme. Mais si vous avez lu l'Écriture, ce dont je ne doute pas, déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre des Maccabées, on priait pour les morts. On priait pour que leur âme soit agréée auprès de Dieu. Et ainsi, dans toute l'Écriture. Alors, nous le savons, et c'est encore une deuxième bonne nouvelle, il y aura une possibilité pour moi de vider mon sac de ce qui restera de pas terrible, car si je fais un petit examen de conscience, je ne suis pas sûr d'être parfaitement pur. Et rien d'impur, dit l'Apocalypse au chapitre 25, ne peut tenir devant Dieu. La purgatoire est une deuxième miséricorde qui est faite à mon âme pour me libérer de ce qui ne sera pas encore complètement purifié. Voilà pour le premier point que je voulais aborder. Rappelons-nous que nous avons une destinée éternelle et que, en quelque sorte, c'est maintenant que c'est commencé. Notre vie a cette importance, ce poids de grâce que nous pouvons lui donner. Mais voilà, il nous faut donc entrer dans un combat spirituel, c'est-à-dire un discernement du bien et du mal, et une volonté de le faire. Un discernement, un combat, nous sommes dans l'Église militante, dit les catéchismes de l'Église catholique, c'est-à-dire nous nous battons. Alors nous ne nous battons pas comme on aurait pu, comme on a toujours pu le croire à travers tous les siècles, avec des armes matérielles, nous ne nous battons pas extérieurement. Il nous faut nous battre intérieurement, et bien sûr, cela va avoir une conséquence sur notre vie matérielle ici-bas. Cette détermination du bien, cette volonté du bien, elle est fondamentale. Rien n'est laissé au hasard. Vous avez entendu cet appel, si ton œil te scandalise, arrache-le, jette-le au loin. Si ta main t'amène au péché, coupe-la et jette-la au loin. Bien sûr, l'Église n'a jamais entendu ça dans un sens littéral. Vous n'êtes pas invité stricto sensu à vous couper la main, le pied ou à vous arracher l'œil. Mais ce n'est pas parce que c'est une image parabolique que son sens n'en reste pas plein et entier. C'est une manière, avec la violence qui est évoquée ici, de vous dire la radicalité de cette séparation d'avec le péché. Vous le savez, on est assez condescendant avec nous-mêmes, et parfois même tolérant avec nous-mêmes. On appelle ça des petits péchés, peut-être même des péchés mignons. Et puis, de loin en loin, on s'autorise à être vraiment ceux qui vivent du mal. Oui, le mal peut s'installer, vous le savez, dans l'éducation, c'est l'idée. On reprend sans cesse les enfants pour qu'ils fassent le bien. Souvent, les enfants ne font pas des choses terribles, mais on a peur. Si on les laissait aller à poser acte après acte, qu'ils s'en aillent vers leur perte. Voilà pourquoi sans cesse, même pour des fautes peu graves, on reprend les enfants. Eh bien, il faut nous reprendre nous-mêmes afin que nous ne commettions pas des actes graves, afin que nous ne commettions pas des actes abominables. Et nous l'avons devant les yeux sans cesse, hélas, et plus souvent qu'à notre habitude, la possibilité n'en est pas irréelle. Oui, il nous faut faire le bien et rejeter le mal, mais la bonne nouvelle, une fois de plus, c'est que rien ne sera laissé de côté. Le Seigneur n'oubliera pas notre bonté. Il est dit, et c'est la même image parabolique, elle nous est plus sympathique ici, pas même un verre d'eau que vous aurez donné au nom du Christ ne sera oublié. C'est-à-dire rien du tout. Et bien sûr, le Seigneur n'est pas comptable des verres d'eau, là aussi c'est une image. C'est une image parabolique qui nous invite à comprendre que le Seigneur, il est de tous les biens et que le plus petit que nous puissions réaliser, c'est déjà Dieu que nous réalisons dans notre vie. Alors voilà, mes bien chers frères, je vous invite cette semaine à méditer, à faire un examen de conscience pour connaître ce qui, dans notre cœur, ce qu'il y a de bon, mais aussi pour reconnaître ce qu'il peut y avoir de mauvais. je vous donne une clé de lecture très simple. Ce qui vous amène à la paix et à la joie, il y a des chances que ça soit bon. Ce qui vous amène à la mélancolie, à la tristesse, au désespoir, il y a des chances pour que cela soit mauvais. Alors, rejetez-le et livrez-le au désespoir de notre ennemi, c'est-à-dire du diable. Ne lui laissez rien qui soit bon, nous voulons être de Dieu. Notre Saint-Père, le Pape, conscient de la difficulté dans laquelle nous vivons, chacun dans notre vie, mais aussi en ce moment, l'Église, qui, il ne faut pas se le cacher, l'Église a connu bien des choses, mais est dans une passe difficile, eh bien, il nous ramène au combat spirituel. Bien sûr, nous n'avons pas la main sur les affaires, sur les choses, etc. Si nous l'avons, il faut faire quelque chose. Mais nous avons d'abord la main sur nous-mêmes. Un jour, quelqu'un qui interrogeait Mère Teresa et qui lui disait, un journaliste, non sans une certaine malice, « Vous qui êtes une sainte femme, qu'est-ce que vous voudriez changer dans l'Église ?» Et Mère Teresa de répondre, « Moi. » C'est d'abord moi qu'il faut changer. Si vous tous, ici, vous devenez des saints, et pas des saints sur papier glacé, mais des vrais saints, l'Église qui est à Paris va s'élever, l'Église catholique va s'élever, le monde lui-même va devenir meilleur. Ce sur quoi vous avez du pouvoir, c'est sur votre âme. Alors, ayez pitié de vos âmes et élevez-les vers Dieu. Enfin, ce combat, il se fait bien entendu dans la prière, comme le Seigneur a combattu l'adversaire dans le désert. Je vous invite à prier. Notre Saint-Père le Pape, hier, j'ai changé mon homélie, je l'avais faite hier matin, et j'ai découvert hier après-midi qu'il a fait un appel tout particulier au jour de la Saint-Michel qui était hier, et il nous a demandé deux efforts. Il nous a demandé à toutes les messes de dire la prière de Saint-Bernard à la Vierge Marie, « Subtum presidium, sous votre protection nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu », et de dire la prière à Saint-Michel Archange pour la défense du mauvais. Oui, il nous invite vraiment à un combat spirituel, il nous invite à réitérer cette prière à toutes nos messes du mois d'octobre. C'est ce que nous ferons ici dans cette paroisse, à toutes les messes. Mais il vous invite aussi, et moi aussi, à prier le chapelet tous les jours, si vous le pouvez, pendant le mois d'octobre. Alors prions avec l'Église, nous sommes de cette Église, nous sommes les enfants de la Vierge Marie, enfantés dans le corps du Christ. Livrez-vous, ce n'est pas une occupation pieuse et secondaire, c'est là que commence le combat spirituel dans votre vie. Soyez certains que c'est l'action spirituelle qui va nous refonder, nous, chacun de nous, et l'Église du Christ. Ainsi soit-il.